Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Merci d'être venu dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le commissaire européen au marché intérieur. On va parler de la fin de la voiture à moteur thermique, des ZFE, parce que tout ça c'est l'Europe. Et finalement c'est pas fait. La voiture essence ou diesel a peut-être encore de l'avenir. Et puis les ZFE, les zones à faible émission dans les centres-villes, ce sera peut-être pas imposé. On va y revenir, mais d'abord la réforme des retraites, semaine de tractation politique. Et si cette réforme était dictée par Bruxelles et sa fameuse règle du déficit de 3% du PIB? C'est ce que dit l'économiste Michael Zemmour, pardon, je confondais le prénom évidemment, Michael Zemmour, qui était mon invité la semaine dernière, écoutez.
Il choisit de faire une réforme maintenant qui fait des économies pour des questions de finances publiques. En fait, le gouvernement a un objectif de réduction de son déficit à 3% en 2027 et il s'est lui-même créé une difficulté en baissant les impôts sur les entreprises, la baisse des impôts de production, et en baissant les impôts notamment sur les ménages aisés, la taxe d'habitation. Donc il se crée un déficit alors même qu'il doit le réduire. On est aujourd'hui à environ 5%. Et pour réduire ce déficit, il a fait un choix, celui de réduire les dépenses publiques vite. Et pour réduire les dépenses publiques, il a choisi les retraites.
Nickel, Zemmour, bien sûr. Tout ça, c'est pour donc montrer patte blanche à Bruxelles, à vous.
D'abord, merci de me poser la question, Apolline de Malherbe, parce que ça me permet de le dire une bonne fois pour toutes. Non, ça n'est absolument pas une demande de Bruxelles. Et je dis du reste à monsieur Zemmour. C'est une proposition qui a été faite par le président de la République. Je crois, évidemment, comprendre, mais encore une fois, je n'interviens pas dans les débats des États membres, évidemment, vous le comprenez. Mais quand tu regardes ce qui se passe sur l'ensemble des pays européens, c'est vrai que face à l'allongement de la durée de vie, tous les pays, je dis bien tous les pays, allongent la durée de vie du travail. Alors évidemment, il faut le faire en respectant les situations individuelles, la pénibilité. Mais enfin, l'Allemagne va passer à 67 ans, la Belgique de 65 à 66, l'Italie à 67, l'Espagne avec le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez à 67 ans. Donc tous les pays aujourd'hui sont dans une logique de rallongement, évidemment en accompagnement, de la durée du travail, parce que, pour deux raisons, si vous me permettez.
Allez-y Thierry Breton.
La première, c'est évidemment l'allongement de la durée de vie, qui est une très bonne nouvelle. Évidemment, en tenant compte des situations individuelles, je l'ai dit. Et puis la deuxième, c'est parce que lorsque tous les pays vont dans ce sens, lorsqu'on travaille un ou deux ans de plus, évidemment, son employeur continue à payer des charges sociales. Donc on contribue, je dirais, à faire en sorte que le système global, pas uniquement celui des retraites, soit plus à l'équilibre. Donc au fond, cet allongement de la durée du travail va évidemment avec non seulement une évolution de l'allongement de la durée de vie, c'est ce qu'on constate dans l'ensemble des pays européens, mais aussi sur le fait que ça augmente, je dirais, la capacité à créer de la richesse pour nous tous et de... Parce que, vous voyez, j'ouvre juste cette parenthèse, et je ne porte aucun jugement sur ce qui se passe en France, vous le comprenez.
Enfin, vous portez aucun jugement, mais enfin, quand même...
Je dis ce qui se passe au niveau européen.
Clairement, vous avez choisi votre camp.
Oui, mais parce qu'encore une fois, c'est vrai que les années Mitterrand...
La retraite à 60 ans, c'était un totem.
Ça a été financé par de la dette. Je rappelle qu'à l'époque, on avait très peu de dettes. Aujourd'hui, on a 3 000 milliards de dettes. Je ne dis pas que cette dette, elle a été entièrement consacrée à rembourser le fait du passage de 65 ans à 60. Mmh. Mais c'est la baisse de productivité, de compétitivité de la nation
sur laquelle on vit à crédit. Donc cette réforme, c'est bien une sorte de réhabilitation budgétaire. Pour vous, l'objectif, c'est quand même aussi
une rigueur
budgétaire.
Je dis, en ce qui concerne l'ensemble des pays européens, c'est s'adapter, se remettre au niveau de ce qui se passe par rapport à l'évolution tendancielle pour chaque État. Maintenant, je le redis très clairement, il n'est absolument pas question de dire que c'est pour faire plaisir à Bruxelles. Ce n'est pas Bruxelles qui le demande, ce sont les États membres qui prennent ces décisions, ils sont libres de le faire, et c'est ce qu'a voulu faire la France,
mais
si j'ai bien compris.
Si ça paraît si naturel, comme vous le dites, c'est-à-dire quand vous regardez, comme vous venez de le faire, vous nous citez l'Allemagne, l'Italie,
tous les pays, c'est pas compliqué,
l'Espagne,
tous les pays, repart, oui.
Tous les pays, voilà, vous le dites comme ça, tous les pays, oui. Tous les pays, oui, ont augmenté. Pourquoi la France ne le fait pas? Pourquoi en France ça bloque? Quel regard vous portez là-dessus, vous qui avez justement ce regard global?
Encore une fois, je n'ai pas à le faire, je se dire, et vraiment, pardonnez-moi, mais je ne rentre pas dans cette discussion-là.
Vous avez une sorte de devoir de réserve, vous êtes français, mais vous n'êtes pas le commissaire français.
Je suis commissaire européen. Je vous livre aujourd'hui la vision européenne, à charge ensuite, pour ceux qui nous écoutent, d'en tirer les conséquences, les leçons qu'ils voudront bien en tirer.
Ce qui veut dire que si la réforme ne passait pas, Bruxelles ne s'en mêlerait pas.
Non, absolument pas. Absolument pas. Il y a ensuite, par ailleurs, parce que M. Zemmour, à l'instant, fait une relation entre les déficits et la réforme de la retraite, c'est peut-être un peu osé, puisqu'encore une fois, il n'y a aucun impact sur les déficits de cette année par rapport à cette réforme. Or, ce dont on va discuter...
Ça vise l'équilibre en 2030.
Ce dont on va discuter dans les mois qui viennent, c'est évidemment les déficits excessifs par rapport aux 3%.
La règle des 3%, ensuite, à chaque État de s'organiser pour obtenir ces 3%. Cette règle, c'est bien qu'on ne doit pas avoir un déficit plus grand que 3% du PIB. Bien d'accord là-dessus. La règle reste la même.
La règle, c'est qu'on doit avoir des budgets à l'équilibre. Parce que dès qu'on a un déficit, c'est de la dette pour les enfants. Donc la règle, c'est qu'on doit avoir tous un budget à l'équilibre. Alors on autorise, dans des cas exceptionnels, d'aller jusqu'à 3%. C'est ça, la règle. Et quand on a des crises... j'allais presque dire systémique, et absolument, c'est la définition d'une crise, de reste non prévue, comme par exemple celle du Covid, ou la crise de l'énergie.
On peut s'exonérer
effectivement cette limite des 3%. Mais maintenant, on re-rentre effectivement dans une normalité, parce que je le redis, derrière ces 3 000 milliards de dettes pour la France, il va falloir évidemment les rembourser.
Le sentiment que quand on voulait vraiment trouver de l'argent, on pouvait. C'est-à-dire que comme vous le dites à l'instant, Thierry Breton, vous dites, OK, la règle, c'est les 3%. Mais bon, quand il y a vraiment une urgence, comme il y a pu y avoir avec le Covid, eh ben, tant pis, on allonge la facture. Alors pourquoi on le fait pour le Covid et pas pour le reste?
Je ne dis pas ça. Je ne dis pas, mais bon, on peut s'arranger. Non, je ne dis pas ça.
Non, c'est juste, non, ça c'est vrai, c'est
voilà,
ma formule. C'est,
voilà. Moi, ce que je dis, c'est que qui dit déficit, dit dette. Qui dit dette, dit remboursement au moins des intérêts de la dette, avec un aujourd'hui des taux d'intérêt qui sont à 2,5%, il n'est pas impossible qu'ils montent à 3%, peut-être même un peu plus, on le sait. Ça veut dire, encore une fois, que vous appliquez ça sur les 3 000 milliards de dettes, vous imaginez les montants qu'il va falloir rembourser. Ça va devenir, évidemment, rapidement le premier budget de l'État. C'est autant d'argent qu'on n'aura pas pour l'école, pour la santé, pour la défense. Et donc, il faut évidemment se contraindre. C'est tout ce que je dis. C'est tout. C'est uniquement de la bonne gestion.
Je comprends parfaitement, Thierry Breton.
Et l'argent ne tombe pas du ciel.
C'est vrai que
l'argent ne tombe pas du ciel.
Votre discours est le même que celui du gouvernement.
L'argent ne tombe pas du ciel. Et l'argent que l'on emprunte, c'est pas les contribuables, c'est les enfants qui vont devoir le payer.
Thierry Breton, est-ce que la voiture à moteur thermique, c'est vraiment terminé en 2035, comme ça avait été annoncé? L'Allemagne, finalement, ne signe pas cette demande européenne. Est-ce que ça veut dire que le moteur à essence ou à diesel a encore de l'avenir?
Alors, il y a plusieurs choses dans la question. D'abord, il faut bien s'arrêter une seconde.
Allez-y, parce que c'est une question très importante. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent,
sur notre démocratie européenne, qui repose d'abord sur le choix du peuple qui est représenté par les députés européens qui siègent au Parlement et l'ensemble des États au sein du Conseil. Il y a une proposition qui a été faite, qui était un arrêt à 2035. Vous savez, je plaidais plutôt pour 2040. Je trouvais que c'était un peu court, 2035. Il n'en demeure pas moins que le Parlement a voté avec des amendements l'arrêt des moteurs thermiques en 2035 et le Conseil européen aussi, avec quelques conditions du reste. Il y avait une demande de l'Allemagne qui était que l'on puisse réintégrer les moteurs thermiques à carburant de synthèse. Ça a été donc voté. Ensuite...
Tout le monde s'était mis d'accord.
Oh, attendez, ça ne marche pas comme ça. Le Parlement et le Conseil votent. Il y a un trilogue. Donc on va à ce moment-là, c'est comme les commissions mixtes paritaires.
C'est ce que j'allais exactement dire. On a tous en tête la commission mixte paritaire.
On a un texte ensuite qui fait la synthèse de nos deux instances, les deux co-législateurs. Et après, chacun doit revoter pour voir que ça corresponde bien. Le Conseil, le Parlement l'a fait. Avec beaucoup, du reste, pas la majorité. Il y a eu certes la majorité, mais on pensait qu'il y aurait plus de votants. Et le Conseil, il doit voter. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui, visiblement, pour l'Allemagne, ne semblent pas avoir été conformes à ce qu'elle espérait ou les engagements qui avaient peut-être été pris, notamment sur les véhicules à moteur thermique à carburant de synthèse. Donc, ils sont en train de discuter. Je sais que l'Italie discute et dans le même sens. Je crois que la Pologne également, la Tchéquie. Ils vont donc se réunir aujourd'hui, du reste, à Strasbourg, pour en discuter.
La réunion a lieu aujourd'hui même. Voilà,
il faut respecter notre démocratie. Maintenant, en ce qui me concerne, moi, commissaire au marché intérieur et donc responsable de l'industrie, et en particulier automobile.
De l'industrie automobile.
Il y a quand même 14 millions d'employés qui travaillent, de femmes et d'hommes qui travaillent dans cette industrie.
Et qui ne savent plus, qui n'ont plus d'horizon.
Mais ce n'est pas qu'ils n'ont plus d'horizon. On est en train de finir la démocratie. Aujourd'hui, aucune décision n'a encore été prise. Je le dis aux constructeurs. Attendez que la démocratie ait achevé son cheminement pour
ne
pouvoir prendre les décisions.
Pas, en réalité,
je n'ai pas arrêté de le leur dire qu'il s'agisse.
Parce qu'ils disent oui, mais on ne sait pas qu'on arrête de produire des voitures.
Je leur ai dit, gardez pour l'instant les deux. Tant que la décision n'est pas finalisée, elle va l'être dans les semaines qui viennent, mais laissez le processus parlementaire aller à son terme, parce que nous sommes dans une démocratie, et n'anticipez pas ce que la démocratie va faire. Je le leur ai
dit
à tous.
Parce que là, ils pleurent, maintenant, il faut le dire, hein, depuis deux jours, en disant, mais attention, nous, on s'était préparé, notamment les constructeurs français.
Mais ils ne peuvent pas dire que je ne leur ai pas dit, à chacun d'entre eux, gardez pour l'instant les deux, parce que il faut aller à l'issue du processus. Et j'ajoute un deuxième élément qui est important au débat, que je ne cesse de dire également. Si, effectivement, on va à la fin des moteurs thermiques en 2035, ce qui a été évidemment le sentiment que vous souhaitez, et le Parlement et le Conseil sous des certaines réserves, avant donc ces éléments du trilogue, eh bien, ça ne veut pas dire pour autant la fin des moteurs thermiques sur la planète. Enfin, c'est du bon sens. En Afrique, il y aura quand même 2,5 milliards d'habitants en 2050. Il est évident qu'on va pas avoir des moteurs électriques partout parce qu'il y a juste pas d'électricité. Il y a la moitié de la population africaine qui n'a, hélas, et c'est un drame.
Je suis assez surprise.
Mais je le dis depuis 10 mois.
Je suis assez surprise parce que on a quand même eu véritablement le sentiment qu'en 2035 c'était fini. Et d'ailleurs, vous vous adressez aux constructeurs automobiles, mais vous pourriez aussi vous adresser aux propriétaires de voitures, tout simplement, à tous les Français qui sont propriétaires d'une voiture, qui se disent, qui n'osaient plus forcément changer de voiture, qui attendaient les décisions avant de décider s'ils passaient ou non à l'électrique, qui sont peut-être propriétaires d'une voiture essence, qui se disent je vais plus pouvoir la revendre.
Nous sommes au terme du processus. Attendez encore quelques jours.
Et en fait, vous ne dites rien n'est fait.
Non. Je dis qu'encore une fois, les 2035, on travaille sur 2035. La voiture thermique, je viens de vous dire et je le redis, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis qu'à partir du moment où en 2035, on va y aboutir, la question c'est de savoir est-ce qu'on va intégrer ou pas les moteurs thermiques à carburant de synthèse. C'est ça qui
est
en discussion.
Dans ces cas-là, ça voudrait dire
c'est ça qui est en discussion aujourd'hui.
Le moteur serait le même, mais il faudrait non plus de l'essence ou du diesel.
Oui, mais pour le reste. En dehors de l'Europe, c'est ce que je dis, nous sommes 440 millions d'habitants sur une planète de bientôt 9 milliards d'habitants. Ils vont pas tous passer à l'électrique en même temps, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Inde.
Ce qui intéresse ceux qui nous écoutent, c'est de savoir si en effet leur voiture va rien valoir à l'Argus,
bien entendu,
ou si elle a encore un avenir,
mais de toute façon,
doit passer à l'électrique.
Encore une fois, je vous le redis, la fin des moteurs thermiques pour l'Europe, c'est engagé, on est en train de finaliser la date, et il y aura du reste une date de revoyure en 2026, comme vous le savez, parce qu'il faut bien voir derrière tout ce qu'il y a à faire, mais je le redis,
en 2050...
C'est votre demande en particulier. Mais on est en route, j'ai créé une structure qu'on a appelée Route 35, où tous les acteurs se rejoignent maintenant, et on se rencontre tous les 3 mois pour voir les progrès, comment, où on en est sur l'électrification, les bornes, etc. Ce que je dis, c'est qu'en 2050, il y aura en gros encore 70% des véhicules sur la planète qui seront thermiques, parce que, hors d'Europe encore une fois, parce que les autres pays n'évoluent pas à la même vitesse que nous sur l'électrification, et je souhaite que l'industrie automobile européenne continue à être exportatrice nette de voitures, évidemment, électrique, mais aussi de voitures thermiques.
Moi, je serais patronne d'une grosse industrie automobile. Je vous dirais, c'est sympa, mais je ne veux pas faire des voitures uniquement pour l'exportation.
Ah bon ?
Je ne pourrais plus vendre en Europe.
Ah bon ? Alors que le plus gros marché... Ah bon ? Parce que vous pensez... Ah bon ?
Ils ne pourront plus les vendre en Europe.
Mais l'Europe, c'est 440 millions d'habitants. Mmh. Le reste du monde, c'est 8 milliards et demi. Et les marchés vont être gigantesques. Qu'est-ce que vous croyez que les Chinois sont en train de faire ?
Donc vous n'accepterez plus. Non, mais il y a aussi même quasiment un problème moral. C'est-à-dire que vous dites, pour nous, non, on ne veut plus parce que ça pollue, mais par contre, on va les vendre ailleurs.
Parce que nous sommes en train de travailler sur des normes qui font qu'on va de plus en plus... fabriquer des voitures à moteur thermique à très faible émission de CO2. Il faut bien que les autres pays. Il faut bien que l'ensemble de la planète puisse évoluer évidemment vers le zéro CO2, mais à son rythme. Il est évident.
C'est très complexe.
C'est très complexe aussi de passer un continent comme le continent européen
Est-ce qu'on s'est pas un petit peu trompé? Est-ce qu'on n'a pas mis un peu la charrue?
Eh bien, nous allons voir, puisqu'encore une fois, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce groupe Route 35, avec tous les acteurs. On a la volonté, évidemment, d'être pris en 2035. On fera tout pour. Vous pensez bien. On a une clause de rendez-vous en 2026. C'est pas pour rien. On se bat, évidemment, pour tenir 2035, parce qu'on pense que c'est bon pour la planète, c'est bon pour l'Europe, c'est bon pour l'économie. Mais évidemment, il faut qu'on fasse le point en permanence. Et puis, je le redis, et pour conclure, vous permettez là-dessus, c'est une bonne chose que nous ayons ceci en Europe. Il faut, et j'appelle de mes voeux, l'ensemble des constructeurs pour qu'ils continuent à servir la globalité du marché, parce que ce marché va continuer à être porteur aussi bien sur les thermiques les plus propres possibles en dehors d'Europe que sur l'électrique.
Et précisément, Thierry Breton, vous disiez, il n'y a pas de l'électricité partout. Alors, il y en a évidemment en Europe, mais avec les tensions qu'on a connues, non seulement les tensions sur la capacité de production, mais aussi sur les prix, vous allez enfin, j'allais dire, réformer le marché de l'électricité, dont on a l'impression que ça fait un an que, entre l'Allemagne et la France notamment, il n'y a pas du tout la même vision sur l'impact du prix réel à la facture.
Alors c'est un sujet évidemment qui est très complexe, parce qu'on ne peut pas le faire comme ça en un claquement de doigts. Il y a autant d'experts de marché de l'électricité que de solutions, me semble-t-il, ces derniers temps. Il y a d'abord, évidemment, sur les consommateurs, il faut avoir d'abord la disponibilité de l'énergie, donc l'interconnexion est extrêmement importante. On a vu du reste que ça a été très utile au cours de l'hiver qui se termine bientôt, parce que...
La solidarité,
et donc l'interconnexion. Parce que la solidarité sans interconnexion, ça sert à rien quand on parle d'électricité. Et donc, on le sait, la France a été pendant longtemps exportateur net. On a eu des problèmes sur les centrales nucléaires qu'on connaît en France. Dieu soit loué, maintenant c'est en train de s'arranger, et notamment sous l'impulsion de Luc Rémont. Il n'en demeure pas moins que l'Allemagne a permis à la France de faire face en exportant de l'électricité pour que la France puisse faire face aux problèmes conjoncturels que nous avons connus. Donc, cette interconnexion, elle va continuer. C'est très important qu'on ait justement cette fluidité du marché
de
l'électricité.
Comment va être fixé le prix ?
Vous allez le voir, c'est cette semaine qu'on va l'annoncer. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais je voulais vous dire d'abord, ce qui est très important, ça c'est le premier objectif, qu'on limite au plus, le plus près possible les coûts pour le consommateur comme ça a été demandé à juste titre. Et puis, il y a une deuxième dimension. Évidemment, qu'on encourage de plus en plus la création d'énergie, qui soit de l'énergie décarbonée avec les énergies renouvelables, c'est très important, donc il faut qu'on intègre ça dans l'équation. Et enfin, le troisième point, c'est que pour les grands consommateurs d'électricité, il faut avoir des contrats à long terme, qui se rapprochent le plus des coûts réels de production, et c'est quelque chose aussi qui sera proposé, qui était très demandé, je crois, par les grands consommateurs, effectivement, pour que on soit compétitif au niveau industriel en Europe.
Thierry Breton, vous le disiez, vous êtes aussi en charge de l'industrie. L'industrie, c'est aussi l'industrie de guerre, avec ce problème que l'on a réalisé à nouveau, après l'avoir peut-être un peu oublié, qui est que nous sommes dépendants sur la question des munitions. Alors, c'est le cas de la France, mais d'autres pays également, notamment les petites munitions. Est-ce que, dans ce contexte de guerre en Ukraine, vous allez réussir à renverser la tendance et à rendre l'Europe souveraine sur la question de la fabrication de ces munitions?
D'abord, c'est un sujet qui concerne, j'allais dire, le monde entier, en tout cas le monde occidental. C'est vrai que...
Détrompez-vous,
l'Amérique est encore en moins bon état que l'Europe sur la fabrication de ces munitions. On parle, pour les experts, d'obus de 155. On en fabrique plus, heureusement, en Europe qu'aux États-Unis. Mais il n'en demeure pas moins que, effectivement, ce type d'armement, ce type de munitions est essentiellement dédié à ce qu'on appelle les guerres de haute intensité. C'est vrai que personne n'avait imaginé le retour de guerres de haute intensité telles qu'on l'a vu aujourd'hui, en particulier en Europe. Maintenant, il faut donc aller très vite, parce que, je le répète, et on le sait, la guerre en Ukraine, cette guerre voulue par Vladimir Poutine, tragique à bien des égards, elle se traduit maintenant par une guerre, je vais dire, un peu de tranchée, de face à face. Et c'est évidemment qui envoie le plus de munitions d'un côté ou de l'autre. Les Ukrainiens sont dépendants évidemment de leurs partenaires, de nous, pour livrer ces munitions. Donc il y a trois éléments qui vont être mis en place très vite, parce que c'est une urgence absolue. On s'est réunis du reste pas plus tard que la semaine dernière à Stockholm avec l'ensemble des ministres de la Défense et le haut représentant Joseph Borrell, moi-même, donc pour précisément voir ce que nous allions faire. Trois choses. La première, c'est d'abord de pouvoir mettre tout de suite 1 milliard d'euros sur la table pour permettre à tous les États membres et à tous les États qui le souhaitent, donc, de vider un peu leurs stocks. On a des stocks encore. On en a, évidemment. Chacun a encore ce type de munitions, mais qui puisse évidemment les donner. Et donc là, 1 milliard d'euros, ça fait en gros un peu la moitié, ça fait l'équivalent de 2 milliards, puisque les États vont pouvoir...
Et ensuite, la question, c'est de les renouveler.
Alors, parfaitement. C'est exactement. Alors, avant de les renouveler, qui est un sujet essentiel, vous avez raison, parce qu'évidemment, ils vont le faire que si ils savent qu'on va pouvoir le renouveler le plus vite possible. Deuxième élément, il faut aussi acheter des capacités en plus, notamment à l'industrie. Donc là, il y a de nouveau 1 milliard d'euros qui est mis sur la table, qui peut en faire 2. Ça peut être en gros entre 2 et 4 milliards. C'est très important et ça pourrait répondre aux besoins de l'Ukraine. Mais, et c'est le troisième point, encore faut-il que l'industrie soit capable de les produire. Et là, donc, on a 15 entreprises, en fait, en gros, en Europe, dans 11 pays, qui produisent ces munitions spécifiques de 155, voire de 152. Il y en a 352, c'est pour des armes issues de l'ancien bloc soviétique. Donc, je vais donc, on va maintenant faire, et je vais les voir, j'y commence cette semaine, je vais en Bulgarie, en Slovaquie, on va donc faire en sorte qu'ils puissent maintenant augmenter très très vite la production. On va mettre aussi de l'argent pour les inciter à le faire, augmenter notre outil industriel pour répondre très vite aux besoins.
D'abord. Une vraie industrie donc, oui, européenne de l'armement.
En tout cas, de plus en plus structurée par rapport aux demandes qui sont les nôtres aujourd'hui. Et puis aussi, pour être de plus en plus autonome, vous savez que c'est mon combat.
Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, merci d'avoir répondu à mes questions. 8h54 sur RMC BFM TV.